Bonjour Jean-François Froger.
Bonjour Pierre-Éric.
Heureux de vous retrouver pour poursuivre notre exploration du récit de la Genèse de la création. Nous en sommes donc à notre 8e émission et nous explorons le 3e jour. Alors, plus précisément, la seconde partie de ce 3e jour, alors, à savoir l'interprétation générale de cette seconde partie comme une apparition, une naissance du langage. C'est ce que vous nous aviez dit lors de notre émission précédente, alors je crois que c'est bien de reprendre parce que ce n'est pas si évident en regardant simplement l'acte de gouvernement de Dieu qui fait paraître la verdure sur la terre sèche.
Oui, tout à fait. Donc, nous reprenons exactement cette apparition de la verdure et qui va être ensuite redifférenciée en herbe et en arbre. Alors, d'abord, la première chose que j'ai dite un peu trop rapidement dans notre dernière émission, c'est que la terre, donc qui est mise en évidence par le retirement des eaux, elle est ordre et non ordre. C'est-à-dire qu'on peut y voir à la fois de la différence et de la similitude. Et effectivement, tous les objets du monde sont différents, mais ils se ressemblent par quelques points. On peut faire des analogies. Alors, l'analogie, c'est ça. C'est de privilégier une similitude pour faire une classe d'objets réunis par cette similitude et lui coller un mot. Donc, un mot, ça va être la nomination d'une classe d'objets. Donc, la Terre est propre à ça puisqu'elle est faite de différences et de similitudes.
Ce que vous nous expliquiez avec la verdure, donc, il y a cette similitude de la couleur.
Voilà. Donc là, il y a une similitude générale qui englobe tous les végétaux et qui le distingue de tout ce qui n'est pas végétal. Hein, avec l'opération de logique de négation. Si on n'a pas la négation, on ne peut pas fabriquer un seul mot. Parce qu'il faut qu'un mot désigne une chose et pas tout le reste.
Voilà.
Donc, non quelque chose.
Une similitude et une différence.
Ah oui,
toujours.
Toujours. Donc, chaque mot désignant quelque chose est une classe analogique fondée sur une similitude commune aux choses. Je prends le mot table, par exemple. C'est une classe analogique. Le mot table ne désigne pas telle ou telle table. Elle désigne n'importe quelle table selon une similitude qui est commune à toutes les tables, à savoir que c'est un plateau avec au moins un pied, c'est-à-dire 1, 2, 3, n pieds. Et un plateau, il peut être rond, il peut être carré, il peut être en fer, il peut être en acier, il peut être en marbre, il peut être en bois, etc. Tout ça. Donc, il y aura énormément de différences entre les tables, dans leur forme, dans leur matière, dans leur taille, etc. Mais il y a un seul mot pour les désigner toutes, parce que elles ont en commun une chose, qui est d'être un plateau avec au moins un pied, et souvent deux, quatre pieds, etc. Donc vous voyez, et tous les mots vont être formés comme ça. Donc je dis que tous les mots sont des classes d'objets. Le mot arbre, ça va être la même chose, ça va désigner tout ce qui est vert, mais avec une spécification de plus qui a des embranchements. Et donc tout ce qui va être herbe, c'est tout ce qui est vert et qui n'a pas d'embranchement. Donc on voit que les différentes classes vont se distinguer par la négation, hein, qui est un opérateur d'appartenance. Donc
nous continuons dans cette structure de la connaissance pour l'homme.
Ah oui, bien sûr, parce qu'on voit donc que la Terre produit ça, on ne nous raconte pas pour nous faire l'histoire biologique ou botanique de la Terre. Ça serait débile même. Hein, mais pour nous enseigner une étape capitale de ce que c'est que l'homme. Eh bien, l'homme, c'est ce qui va faire des classes analogiques. Mais ça ne peut se produire que le troisième jour, quand il est muni des autres opérations avant. Il faut suivre l'ordre. Hein. On ne peut pas obtenir le troisième jour si on n'a pas eu le second. Et d'ailleurs, quand on rentre dans la confusion, on l'avait dit il y a deux ou trois émissions, donc par exemple, le déluge va être un retour au deuxième jour, c'est-à-dire vous êtes dans la confusion, eh ben on redémarre. Il faut que vous réacquérez les distinctions nécessaires.
Et puis on peut se souvenir de ce que vous nous avez dit au premier jour aussi sur le fait que Dieu parle à l'homme, parce que là nous approchons du langage, de la parole, et alors, donc on approfondit, je crois, cet éclairage, cette lumière du premier jour,
bien
créée
sûr,
par Dieu.
Bien sûr, la parole, là aussi, se découvre. Mmh. En fait, ce qu'on va voir, c'est que la différence des objets que nous classons pour faire un vocabulaire, mais c'est réversible. Le fait qu'on puisse parler des objets montre que les objets sont une matrice de langage. Et c'est comme des paroles. Et c'est pourquoi, par exemple, pour parler de la création, on va dire que c'est une œuvre de parole. Et c'est, en quelque sorte, on retourne le miroir. Et ça va nous révéler des choses sur la révélation. Mais n'allons pas trop vite. Donc, qu'est-ce que la Terre produit? Eh bien, l'évidence expérimentale est utilisée, parce qu'on voit effectivement des herbes et des arbres. Oh, c'est une observation toute banale. Hein. Il y a une classe commune pour tous, la verdure. Et nous dirions la végétation. Eh bien, notre attention est attirée sur le fait commun qu'ils produisent tous de la semence par eux-mêmes. On ne fait pas attention à des choses plus subtiles, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va pinailler sur les lichens, etc. Encore qu'il y a des sporules aussi, bon. Mais encore une fois, c'est pas un livre de botanique, c'est un livre de structure qui révèle les conditions de l'homme. On a donc deux étapes dans la classification. La classe commune de tout ce qui se reproduit par semence autoproduite, et ensuite deux classes, que sont les herbes et les arbres. Or, la similitude qui permet de fabriquer la classe arbre, c'est le fait de l'embranchement. Et là, on voit une nouvelle structure. Donc, il y a ce qui n'a pas d'embranchement et ce qui a des embranchements. Autrement dit, il y a une séparation dans l'ordre des autoreproducteurs végétaux, ceux qui ont des branches, ceux qui n'ont pas de branches. Mais vous comprenez bien que avoir des branches, c'est une figure qui va servir de modèle, en quelque sorte, à toute bifurcation. C'est-à-dire, vous avez un chemin qui se divise en deux, et vous savez immédiatement que la question du choix se pose. Vous vous promenez, vous allez à droite ou vous allez à gauche, puisqu'il y a un chemin qui fait deux branches. Et d'ailleurs, on dit des branches de chemin. Voyez. Donc, l'idée d'embranchement est une chose capitale. Pourquoi? Parce que ça met devant une opération de choix et une opération logique, c'est que les possibilités, c'est droite et gauche, elles sont également possibles l'une et l'autre, mais l'opération qui va vous permettre de continuer votre promenade, ça va être droite ou gauche. Donc vous avez deux opérateurs de la logique qui apparaissent d'un coup, et ou. Bien sûr, si vous faites marche arrière, vous abolissez tout ça. Et donc, cette production de deux classes nous met devant la constitution des mots, donc c'est le prototype même du langage, et à l'intérieur du langage, immédiatement, l'idée qu'il y a des choix possibles. Et donc, s'il y a des choix possibles, il y aura des choix à faire. À faire par qui? Eh bien, non pas par l'arbre, parce que l'arbre, lui, fait ses embranchements naturellement, donc il offre cette figure, mais il les fait justement, comme il y a un choix, malgré tout, même dans l'arbre, il y a quelque chose d'aléatoire. Pourquoi ? Quand on regarde bien un embranchement d'arbre, il y a un côté qui est plus gros que l'autre, ou un tout petit peu, mais les branches sont jamais tout à fait égales. Et ça, ça se produit de façon aléatoire. Mais comme ça se produit de façon aléatoire, tous les petits embranchements, il y a un peu plus et un peu moins, mais comme c'est distribué de façon hasardeuse, finalement, l'ensemble est harmonieux. Il y a autant de plus gros et de plus petits dans tout le volume de l'arbre. Donc, ça se distingue à peu près pas. Et le grand nombre va lisser, comme on dit, les différences. Mais donc, nous nous trouvons tout d'un coup munis de cette opération logique du transformation d'un « et », il y a deux choses, en « ou ». C'est-à-dire, il faut aller à droite ou à gauche, quand c'est nous qui agissons.
Prenons, Jean-François, une première pause musicale. Je crois que nous écoutons Mendelssohn.
Oui.
Extrait de la symphonie numéro 5 de Mendelssohn, nous reprenons notre analyse du troisième jour et particulièrement de cette masse de verdure qui se divise en herbe et arbre. Vous venez de nous expliquer que l'arbre symbolise par son embranchement un choix possible. Alors qu'en est-il de ce choix pour la connaissance de l'homme ?
Capital, parce que ça signifie que dans la construction même du langage, nous allons avoir à poser des choix. Alors, quand on ne sait pas faire, ces choses-là se font automatiquement, c'est-à-dire de façon aléatoire. Et quand on sait faire, alors ça correspond à comment dire, un acte de liberté. Là aussi, on voit poindre la décision qui est capitale au niveau même de la structure de la pensée. Alors, il faudra que nous distinguions pensée, langage. Mais il se trouve que aucune pensée ne peut se dire, se communiquer, sinon à travers un langage. Et donc, ici, nous voyons l'apparition du langage qui va révéler, là aussi, une pensée sous-jacente qui, elle, est invisible. Alors, en quelque sorte, c'est comme pour la mer et qui va en un lieu unique et la terre qui apparaît. Lorsque le langage paraît, il peut révéler quelque chose qui lui est antérieur, qui est déjà là, mais qui est invisible, qui est la pensée. Alors du coup, cette pensée, on voit qu'elle court depuis les origines aussi, et on verra alors là aussi en anticipant quelque peu, que la pensée humaine ne peut être dans sa réalité qu'un écho de la pensée divine. Et alors je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est qu'il se trouve que comme il y a du choix et de la liberté, il se peut que la pensée humaine s'oppose à la pensée qui le fait exister, à savoir la pensée divine. Autrement dit, l'homme peut se trouver en opposition avec son créateur. Mais c'est compris, en quelque sorte, dans le don même de la création. C'est pas une effraction, c'est un mauvais usage. Mais il se trouve que si Dieu a voulu l'homme libre, il a fallu qu'il fasse l'homme potentiellement rebelle. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la capacité de choisir non, on n'aurait pas la possibilité non plus de dire oui. Mais alors, donc ce don merveilleux qui est de dire oui à la réalité, à Dieu, suppose que nous fassions un mauvais usage de tout ça. Mais pour l'instant, nous voyons les choses quand elles sont données, dans leur très bon usage. Nous verrons la catastrophe dans laquelle nous sommes, la plupart du temps d'ailleurs, après le récit du Jardin d'Éden, au moment de la chute. Parce que là, la pensée de l'homme va se faire auto-référente, donc ne plus se référer à ce qu'il a fait exister, et on va vers la mort. Alors ça donne ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir le désespoir et le suicide.
L'homme positionné devant un arbre, d'ailleurs, dans cet épisode de la chute.
Ah oui, oui, oui. Mais l'arbre, justement, parce qu'il est question d'un choix.
Un choix.
Bien sûr. L'arbre, ça ne symbolise pas le choix, mais ça le montre. Ça montre la figure du choix. Ça symbolise quelque chose de plus complexe, qui est le symbolisme lui-même, si vous voulez. Mais bon, c'est plus compliqué. Maintenant, nous avons une nouvelle chose à voir à travers les arbres et les herbes. C'est que on répète incessamment dans ce texte qu'il doit faire de la semence. Alors, il faut regarder que ça introduit un nouveau cycle. On a vu le cycle du jour. Et bien, maintenant, on va voir le cycle de la semence. Pourquoi ? C'est une observation immédiate. C'est qu'on voit de la graine. La graine d'une graminée, la graine de fleurs ou du blé, enfin, n'importe quelle graine, qui tombe en terre. Donc elle est cachée là aussi dans la terre. Pas très profondément quand même, pour qu'elle pousse, puisqu'il lui faut un peu d'air, de chaleur et de lumière. Et elle va germer. Et on peut analoguer, c'est-à-dire que c'est analogique, la germination de la graine qui lui fait sortir de terre au matin, quand le soleil se lève, l'herbe se lève, le grain lève. On a les mêmes images, d'ailleurs même dans nos langues, tout ça, c'est pas par hasard, c'est que ça correspond analogiquement à un moment, ça vient à la lumière, oui. Et puis ça monte, ça fait de la fleur, la végétation de la fleur, là c'est l'apogée, en plein soleil, c'est l'été, si vous voulez, c'est le haut, et puis on va vers le soir qui est la formation de la nouvelle semence, et ça va retomber en terre, et on va recommencer le cycle indéfiniment. Si le cycle s'arrêtait, eh bien, il y a une espèce qui disparaîtrait. Alors, jusqu'ici, je sais pas si chez les végétaux, il y a des espèces qui disparaissent, mais on n'en voit pas apparaître, en tout cas. Pourquoi ? Parce que ce système de semence, la semence reproduit exactement la plante. Alors, il y a très très peu de variations, en tout cas. Il se peut qu'il y ait des petites variations. En général, elles ne sont pas viables. Ça, c'est l'aléatoire du système. Bon, mais, voyez, quel est l'intérêt de cette opération ? On est dans un cycle, contrairement au cycle du jour et de la nuit, qui donne un résultat qui n'est pas simplement le retour du cycle, mais l'abondance du cycle et même la surabondance. Donc j'attire l'attention là sur un nouveau concept. C'est que la graine, elle va en donner 10 ou plus. Et donc, à chaque cycle, si toutes les graines donnent elles-mêmes 10, vous voyez, c'est exponentiel d'ailleurs, hein, ça va donner une surabondance. Donc, il y a quelque chose dans la nature qui est de l'ordre de la surabondance, à cause du cycle de la semence autoreproductrice. Parce que 1 va donner beaucoup. Et 1 qui donne beaucoup, beaucoup de fois, c'est surabondant. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir calculer. Alors, il y a des limitations par d'autres phénomènes, bien sûr. Hein, parce que chaque plante n'envahit pas toute la terre. Il y a de la concurrence, et puis elles sont plus ou moins adaptées à l'endroit. Mais la figure qu'il faut voir, c'est ça. Et voyez qu'il y a un nouveau concept du cycle, parce qu'un jour ne donne pas beaucoup de jours, il donne un nouveau jour, c'est tout. C'est une pure répétition. Tandis qu'ici, une semence va donner beaucoup de semences. C'est les mêmes, à très peu de variations près d'ailleurs, parce qu'il y a une stabilité des espèces extraordinaire. Mais ce qui est totalement nouveau, c'est la surabondance. Alors, si jamais ça a à voir avec le langage, voyez que probablement que une idée exprimée, si elle est vivante, va produire, si elle est repensée, parce qu'une idée c'est comme une graine, qui va tomber dans le cœur de quelqu'un, dans son âme, dans son esprit, si c'est fructueux, ça va se reproduire à l'identique, c'est-à-dire on l'aura comprise, mais ça va en donner beaucoup. Alors l'intérêt, quel est l'intérêt de faire un processus de ce type? Mais c'est qu'on peut distraire de la surabondance quelque chose qui ne va plus rentrer dans le cycle. On va pouvoir faire une sortie de cycle sans tuer la vie. Donc, on va pouvoir prendre du grain, par exemple, au lieu de le ressemer, parce qu'on en a trop, on va pouvoir le moudre et le faire cuire, ça va faire du pain, par exemple, et nourrir alors les hommes. Est-ce que les semences sont faites pour ça? Peut-être. En tout cas, on s'en sert pour ça.
Ça pourrait être une autre forme de surabondance, mais nous ne développerons pas la symbolique du pain.
Non.
Mais voilà, de fait, il y a effectivement surabondance dans ce qui est donné. Et on peut penser aussi à la parabole du semeur, voilà, petite parenthèse.
Jésus va employer le cycle de la semence, qui va être le schéma, en quelque sorte, de presque toutes ces paraboles, dites les paraboles du royaume. Donc, c'est des choses qu'il faut répéter et qui doivent produire du fruit. Et d'ailleurs, il le dit comment on produit du fruit, c'est celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est-à-dire qu'on peut très bien entendre ces choses-là sans rien y comprendre, et bon, bof, il a dit ça. Et puis, on se souvient. Mais comprendre, c'est aussi faire fructifier ce qu'on a entendu. Donc, par exemple, une image va pouvoir réveiller un ensemble d'images. Vous voyez, par analogie. Alors on va pouvoir faire des rapprochements. Sans confusion.
La pensée juste dont vous parliez.
La pensée juste. Donc le cycle des jours va être étendu ensuite. Donc vous voyez, on a maintenant le cycle de la semence, mais qui va pouvoir se mettre en superposition, en quelque sorte, avec le cycle des jours. Parce qu'effectivement, on peut assimiler la mise en terre avec la nuit, la germination avec le matin, la floraison avec midi, et les grains qui retombent, enfin, l'épi plein et qui, avec le soir. Donc, c'est une assimilation analogique. Donc, mais du coup, on peut avoir en superposition, en quelque sorte, dans notre esprit, le cycle du jour, le cycle de la semence. Et derrière, on peut avoir le cycle de la création, parce que c'est 6 jours. Et ces 6 jours qui sont constamment à revivre, avec une pause, on verra le septième jour qui n'est pas un jour, mais, et donc, tout est cyclique, tout est à recommencer, sauf que, on sait déjà qu'on peut sortir des choses du cycle pour faire des choses qui ne le sont pas. Ben, le pain n'est pas dans le cycle. Évidemment, il brise. La semence ne repousse pas. Une fois que c'est cuit, c'est cuit. Mais ça va permettre de faire des choses nouvelles et on va voir qu'ils sont accordés d'ailleurs avec le quatrième jour.
Un cycle au service d'une fécondité.
Ah, la fécondité est inhérente à la création et à une étape de l'homme. Donc si jamais un homme n'est pas fécond d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, puisque c'est dans la structure même de la création. Donc, nous voyons le cycle végétal concret dans la contingence comme une représentation analogique de toute la création par superposition. Et surtout, nous voyons quelque chose qui n'était pas dit jusqu'à présent, c'est qu'il y a une dynamique qui tend vers la surabondance. Et cette surabondance, c'est pas encore dit, ça va être ordonné pour sortir du cycle, c'est-à-dire pour produire quelque chose qui n'est pas du type de la création. Alors, on est plongé dans la création pour pouvoir en sortir. Comme on est plongé dans le langage maternel, et il serait souhaitable que nous en sortions un jour. Hein? Avec les mêmes mots peut-être, mais dans la surabondance, pour une intelligence qui n'est pas liée aux structures automatiques. Donc on va utiliser des automatismes, mais pour être fécond dans des choses qui ne sont pas automatiques.
Ce sont des outils.
Oui, donc c'est prodigieux ces textes. Hein. Donc le cycle concerne ici le fait que toute végétation est auto-reproductrice. Mais on distingue deux classes, l'herbe qui est simplement la figure du cycle, à cause du cycle de la semence, et les arbres qui ont la particularité de figurer les embranchements. Ils sont dans le cycle, mais ils ont quelque chose de plus.
Peut-être nous arrêtons-nous pour une seconde pause musicale, Jean-François. Voilà donc Jean-François muni du langage, alors que nous manque-t-il encore pour faire un homme, puisque nous n'en sommes qu'au troisième jour, il en faudra six.
Oui, oui, il nous manque encore beaucoup de choses. Et en particulier dans ce qui est dit dans le quatrième jour. Donc, je vous propose de le lire. Et la divinité dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer entre le jour et entre la nuit. Et ils seront en tant que signes et pour les rendez-vous et les jours et les années. Et ils seront en tant que luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer sur la terre. Et il en fut ainsi. Et la divinité fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour gouverner le jour, le petit luminaire pour gouverner la nuit, et les étoiles. Et la divinité les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer sur la terre, et pour gouverner sur le jour et sur la nuit, et pour séparer entre la lumière et entre les ténèbres. Et la divinité vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour quatrième. Eh bien, nous voyons tout de suite que ça enchaîne avec le troisième jour, parce que ça y ajoute quelque chose de nouveau. Et surtout, on a l'impression qu'on retourne au premier jour. Vous voyez ? Parce que le premier jour, on sépare la nuit du jour, justement, la ténèbre de la lumière. Et ici, on a l'impression, si on lit un peu rapidement, qu'on est en train de recommencer le premier jour. Et pourtant, il y a une différence capitale et qui répond à votre question. Qu'est-ce qui manquait ? Puisque on a presque tout, là, on a la logique, l'analogie, on a tout pour penser, on a le langage. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Eh bien, si on a bien écouté le texte, on aura entendu quelque chose qui revient 11 fois en 4 versets. C'est la formule « pour ». C'est « pour séparer le jour et la nuit ». En tant que signe, « pour les rendez-vous les jours ». « Pour éclairer sur la terre ». Etc. Et ça correspond à une particule en hébreu qui est le, vers, pour. Alors, on fait un tas de choses pour autre chose. Ah ben c'est nouveau ça. Ça veut dire qu'il y a massivement l'idée d'intentionnalité. Et jusqu'ici, il n'y avait pas d'intention. On avait des instruments. Maintenant, mais pourquoi faire ? Il faut que ça soit orienté. Donc on remarque que la structure du jour 1 est établie, elle a servi à donner une matrice universelle de lecture à travers la quaternité du contraste, assurant l'analogicité des choses créées. Ça, c'est tout ce qu'on a vu les jours précédents. Mais le quatrième jour se lie à son tour sur cette matrice. Donc, il y a un commencement et une fin, c'est aussi de type cyclique, d'autant plus qu'il s'agit des luminaires, qu'il s'agit des jours, des années, on va voir ce qu'on va en faire. Mais il y apparaît les termes nouveaux d'intentionnalité des actes divins. Et là, de nouveau, c'est la divinité qui fait les choses. Donc ça veut dire qu'il y a une intentionnalité divine. Et comme on est dans le cycle de fabrication de l'homme, ça veut dire que l'intentionnalité est donnée à l'homme. Et, justement, comment elle est donnée ? Ils seront en tant que signes pour les rendez-vous. Les moadim, les rendez-vous, c'est les rendez-vous de quoi ? Les rendez-vous des fêtes. Les fêtes sont des rendez-vous. Donc, quelque chose de l'homme est là, dans l'intentionnalité même de la création. Donc avant même que l'homme paraisse le sixième jour, on dit qu'il y a une intention à travers le soleil et la lune dont on n'avait pas parlé. On avait parlé de lumière et ténèbres. Mais là, on prend les objets. On dit, mais attention, il faut que ça vienne des signes. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que cet objet doit montrer autre chose que lui-même. Ça va servir à des rendez-vous. Donc ça veut dire que la mécanique céleste, doit être mise au service d'une intentionnalité humaine, à savoir la structuration de la société avec des fêtes, les rendez-vous qu'on a dans l'année, le pèlerinage pour monter à Jérusalem, ou en France le 14 juillet. Donc le peuple doit se réunir. S'il ne le faisait pas, ça voudrait dire qu'il a changé de religion, en le faisant aussi. Parce que chaque fête montre l'inauguration de quelque chose. Alors, le premier rendez-vous possible, imaginable, c'est pour fêter une inauguration, la première de toutes. Quelle est la première inauguration? C'est l'inauguration de la création elle-même. Donc, toute fête religieuse est la mémoire de la création, à travers beaucoup de diversité ensuite, on verra. Mais c'est cette structure qui est mise en place. Donc ça veut dire que dans la nature humaine, avant qu'il y ait un individu, il y a le fait que les hommes, qui vont être nombreux, surabondants, doivent se constituer en société. Donc l'être social est antérieur à l'être individuel. L'individualité va naître au milieu de la société qui va favoriser telle ou telle fructification. Nous, nous voyons les choses dans l'autre sens. Nous croyons, parce qu'on l'a appris à l'école, que c'est des pauvres individus qui s'humanisaient, qui se sont mis ensemble parce que ça serait plus pratique pour faire la guerre ou pour construire un pont. Voilà. Donc il faut bien se mettre à plusieurs. Hein, c'est contraint et forcé en quelque sorte. Alors qu'on nous enseigne ici quelque chose de très différent, et c'est une révélation, c'est que l'aspect social est premier avant même l'aspect individuel. Et effectivement, le langage ne peut pas être une chose individuelle. On ne peut pas parler tout seul. On ne peut pas créer des mots tout seul. Le langage est forcément commun.
Relation.
C'est relation.
Nous l'avions dit au premier jour.
Donc la relation est antérieure à tout pour nous. Voilà. Donc qu'il y ait. Alors, cette intention divine est clairement annoncée, c'est que les luminaires soient des signes. Mais qui fait des signes? C'est l'homme. L'homme doit donc se saisir des choses pour leur faire signifier autre chose. Alors, est-ce que ça sera arbitraire? Non. Parce qu'effectivement, des cycles qui vont être cosmiques, ici, le soleil, la lune, les étoiles, effectivement peuvent servir à compter le temps et à fabriquer des calendriers. C'est pas arbitraire. Hein. Donc, on a l'instrument pour fabriquer un calendrier. Mais quel est l'avantage de fabriquer un calendrier?
L'intentionnalité.
Ben, c'est l'intention de se réunir. Tel jour, telle heure, on se réunit tous. Et il faut que ce soit convenu d'avance, parce que à l'époque, il n'y avait pas le téléphone. Hein. Bon, et c'est pas au dernier moment qu'on se réunit. Donc, pourquoi faire? Mais pour faire un acte commun qui est forcément un acte de mémoire. On va voir. Donc, ici, ils servent de signe pour les temps de fête, pour faire, grâce à eux, le calcul des jours, pour sanctifier le début des mois, début des années, les intercalations des mois, les intercalations d'années, les solstices, la nouvelle lune, les cycles solaires. Et je viens de vous lire l'interprétation targumique de ce verset. Vous savez que le Targum, c'est la traduction araméenne ancienne de l'hébreu, qui était lue du temps de Jésus dans les synagogues, ou récitée en tout cas. Eh bien le Targum, effectivement, ne se contente pas de traduire, mais il glose en même temps, il rajoute des explications. En quelque sorte, tous nos commentaires sont targumiques. Donc l'explication indique clairement qu'il s'agit de pouvoir établir un calendrier. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que, même en latin, parce qu'on est dans l'hébreu, mais dans le latin, calendrier vient du verbe calo, qui veut dire appeler, proclamer, convoquer. Et effectivement, c'est un langage archaïque religieux dans l'ancien latin, latin de l'Antiquité. Et donc on trouve aussi les verbes intercalés ou concilium. Le concile, c'est les gens qui sont convoqués pour discuter d'une chose, pour se réunir, pour réanimer quelque chose. Ouais. Donc, pour faire société. Il faut donc évidemment pouvoir repérer un jour parmi les jours, une heure parmi les heures, donc c'est bien de la distinction aussi, pour convoquer une assemblée. Et il n'est pas possible de le faire grâce aux astres que tout le monde voit. Il faut le faire si on s'en sert comme de signe, comme d'une horloge. Vous voyez ? Mais ils ne sont pas une horloge en eux-mêmes. Donc le soleil va déterminer le jour et l'année. Mais alors, on va voir que ça pose des problèmes considérables. Parce que pour fabriquer un calendrier, nous, on aimerait bien que l'année contienne un nombre de jours complet. Or, c'est pas le cas, comme chacun sait. Mais les cycles lunaires ne contiennent pas non plus un nombre entier de jours. Hein? Par exemple, un cycle lunaire, nouvelle lune à nouvelle lune, s'appelle la période synodique, c'est 29 jours, 12 heures, 44 minutes. Donc vous voyez que ça tombe pas juste, comme on dit. Donc, entre parenthèses, l'idée de la semaine de 7 jours, c'est-à-dire 6 plus 1, n'est pas du tout calquée sur les rythmes de la Lune, mais on se sert de la Lune à peu près pour faire les mois. Parce qu'un mois de 29 jours, un quart, ça fait pas des mois de 30 jours ni de 31. Hein. Donc en fait, on voit bien qu'on se sert des astres comme signes, mais qu'on va faire des calendriers selon une autre idée. Eh bien, certainement, on pourra développer ça la prochaine fois.
Merci Jean-François de nous introduire dans cette première intentionnalité de la création, à savoir que les hommes se réunissent pour les fêtes. À très bientôt.
À très bientôt, Aubert.
يسمحوا هالشمايم بتغيير